Vous êtes sur Radio Orient, bonjour à tous, il est midi, votre rendez-vous d'information avec Loïc Barrière. Au sommaire de ce point d'actualité, au Liban, 12 morts dans les frappes israéliennes d'aujourd'hui dans le centre de Beyrouth. Le Liban qui fait face à plusieurs défis, analyse du politologue Ziad Majed dans le dossier du jour. Les funérailles de Ali Larijani, l'homme fort du régime iranien, tué hier par Israël. En France, c'est ce soir que sera annoncée la date de l'Aïd el-Fitr à l'issue du mois de Ramadan. Une annonce à suivre en fin d'après-midi sur Radio Orient. Les frappes israéliennes aujourd'hui sur des quartiers situés au cœur de Beyrouth ont fait 12 morts et 41 blessés. Ces attaques ont ciblé des secteurs densément peuplés du centre-ville. Lors de cette attaque, un responsable de la télévision du Hezbollah a été tué. Dans le sud du Liban, une frappe a visé une voiture aujourd'hui dans le centre de Saïda. Deux personnes ont été tuées. Des scènes de panique ont eu lieu à Tyr suite à un ordre d'évacuation de l'armée israélienne. Des raids ont visé aussi la ville de Baalbek. Et puis, une attaque aérienne de l'Iran contre Israël a tué deux personnes dans un immeuble de la banlieue de Tel Aviv. Au 19e jour de la guerre au Moyen-Orient, ce mercredi est marqué par les funérailles d'Ali Larijani, l'un des hommes forts de la République islamique, tué hier dans une frappe israélienne. Aux États-Unis, le chef de la lutte antiterroriste démissionne en raison de la guerre en Iran. Dans une lettre à Donald Trump, Joseph Kent affirme que l'Iran ne représentait aucune menace imminente pour les États-Unis. Selon lui, Washington a commencé cette guerre en raison de la pression exercée par Israël. Au Maroc, une aide exceptionnelle annoncée par le gouvernement pour les transporteurs routiers. Les professionnels du transport sont pénalisés par la flambée des prix de l'essence liée à la guerre au Moyen-Orient. Avant le second tour des municipales en France, dimanche, Emmanuel Macron a mis en garde en Conseil des ministres contre les arrangements des partis avec les extrêmes des deux bords. Cité par la porte-parole du gouvernement, le chef de l'État estime que ces extrêmes demeurent dangereux pour la République. À Paris, Rachida Dati se retrouve seule à droite et espère la victoire après le retrait de Sarah Knafo et l'alliance avec la liste de Pierre-Yves Bournazel. Entretien ce soir à 20h sur Radio Orient avec une proche de Rachida Dati, Samia Badat Karam, première adjointe au maire du 16e arrondissement. Toujours en France, c'est ce soir que sera annoncée la date de l'Aïd el-Fitr. À l'issue du mois de Ramadan, la grande mosquée réunit sa commission religieuse à 17h30, une annonce que vous pourrez suivre sur Radio Orient et nos réseaux sociaux. Enfin, le Maroc a été déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2 mois après la finale remportée par le Sénégal. Décision annoncée par la Confédération africaine de football après un recours du Maroc. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de cette édition. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au dossier du jour. Les autorités iraniennes ont confirmé hier la mort d'Ali Larijani, le chef de la sécurité en Iran, dont les funérailles ont commencé à Téhéran. Avec son décès, c'est un maillon essentiel de l'appareil d'État iranien qui disparaît. Depuis la mort du guide suprême, Ali Khamenei, il avait été propulsé en première ligne de la guerre. Marc Aurel Barrez, vous nous rappelez son parcours.
Le sang pur d'Ali Larijani et des autres martyrs bien-aimés seront vengés, c'est ce qu'a affirmé le chef de l'armée iranienne suite à la mort du chef de la sécurité. Alors oui, c'est une perte majeure pour la République islamique. Ali Larijani était devenu une personnalité clé du pouvoir iranien, l'une des figures de proue de la contre-offensive militaire. Vendredi dernier, on l'avait vu défier les bombardements israélo-américains en participant à une manifestation en pleine rue à Téhéran. Un homme longtemps resté dans l'ombre, dont le rôle avait changé depuis la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. D'après un responsable israélien, il était devenu le dirigeant de facto du régime iranien. Toujours selon cette source israélienne, même avant cela, Ali Larijani était considéré comme celui qui prenait les décisions et tirait les ficelles. À la tête du Conseil suprême de la sécurité nationale, ce haut dignitaire iranien était au cœur de la politique nucléaire de l'Iran. À l'âge de 68 ans, ce haut fonctionnaire avait derrière lui une longue carrière au sein de l'armée et du Parlement. C'était aussi un diplomate bien connu des chancelleries occidentales. Il était considéré comme fin tacticien, pragmatique, sans être un réformateur. Entre 2005 et 2007, c'était lui le principal négociateur sur le nucléaire iranien. Plus récemment, il avait été sanctionné par Washington car considéré comme l'un des artisans de la répression sanglante des manifestations, les mêmes manifestations massives qui avaient touché l'Iran en janvier dernier.
Merci Marc Aurel Barrez. 1 million de déplacés, des centaines de morts, le Hezbollah qui soutient l'Iran dans sa guerre contre Israël. Le Liban a demandé pour la première fois à négocier directement avec Israël pour mettre fin au conflit. Pour le politologue Ziad Majed, le Liban est confronté à au moins 3 défis.
Le Liban fait face aujourd'hui à 3 grands défis. Il y a d'un côté le défi de la guerre israélienne qui ravage le sud du pays, la banlieue sud de Beyrouth et certaines régions de la Bekaa, avec des centaines de personnes tuées et presque 1 million de déplacés internes, créant ainsi une crise humanitaire terrible dans un pays qui est toujours sous le choc d'une série de problèmes économiques, d'effondrement du système bancaire. Donc il y a ce premier défi. Il y a un autre défi qui est par rapport au clivage politique interne entre les opposants à Hezbollah et la base de soutien de Hezbollah, sachant que Hezbollah a décidé de rejoindre l'Iran dans son effort militaire face à la guerre israélo-américaine, ce que certains Libanais considèrent comme étant une politique qui a embarqué le Liban, qui lui a imposé une guerre avec Israël. De l'autre côté, les soutiens de Hezbollah évoquent le fait que les Israéliens n'ont jamais respecté le cessez-le-feu avec le Liban, qu'il y a des territoires toujours occupés. Donc ils essayent de relativiser la responsabilité ou de la rendre plutôt libanaise que iranienne en tant que choix de rejoindre cette guerre. Donc ce deuxième défi risque d'avoir aussi des implications au niveau de la scène politique libanaise, de la sociologie politique libanaise. Et puis, il y a troisièmement, comment arrêter cette guerre ? Même si on dépasse le clivage politique et les discussions et les débats sur la responsabilité de Hezbollah, il faut aujourd'hui arrêter cette guerre qui détruit le pays et qui aura des conséquences à long terme aussi, si jamais il y a une occupation militaire israélienne et si jamais les déplacés ne pourront pas revenir chez eux. Comment pouvoir gérer tout cela? Comment imposer aux Israéliens un cessez-le-feu? Quel genre de négociations auront lieu? Qui seront les acteurs? Il me semble que nous sommes loin encore d'une gestion ou d'une sortie de cette guerre dévastatrice. Donc, en fait, il est normal qu'avec cette nouvelle guerre qui se déroule aujourd'hui, qui déplace plus d'un million de Libanais, et avec des déclarations aussi qui menacent de ne plus permettre aux résidents et aux habitants, aux enfants du sud Liban de rentrer chez eux un jour, il est normal que la diplomatie libanaise tente de trouver des solutions, de négocier, d'appeler la communauté internationale à faire pression sur les Israéliens pour un cessez-le-feu, afin qu'une négociation politique puisse avoir lieu. Et cette négociation, les Libanais ont dit qu'ils sont prêts à l'entamer sans tabou et dans un cadre de droit international.
Le politologue Ziad Majed au micro de Marc Aurel Barrez. Enfin, nous revenons sur ce coup de théâtre dans le football africain. Le Maroc est sacré champion d'Afrique 2 mois après la finale l'opposant au Sénégal. Les précisions avec vous, Salma Dakhlaoui.
Tout à fait Loïc, le football africain continue de faire parler de lui. Mais rappelons d'abord ce qui s'était passé le 18 janvier dernier à Rabat. Le Sénégal s'impose sur le terrain face au Maroc, 1-0 après prolongation au terme d'une finale très tendue. Mais la rencontre bascule en fin de match après un pénalty accordé au Maroc. Les joueurs sénégalais quitte la pelouse pendant plusieurs minutes pour protester. Ils finissent par revenir, le pénalty est manqué et le Sénégal inscrit ensuite le but décisif en prolongation et décroche le titre. Dans les jours qui suivent, la Confédération africaine de football prononce déjà des sanctions disciplinaires contre les 2 équipes pour les incidents survenus pendant le match. Mais hier, 2 mois plus tard, revirement total de situation, le jury d'appel de la Confédération africaine de football estime que le départ du terrain des Sénégalais constitue une infraction grave au règlement. Résultat, le Sénégal est déclaré forfait et voit son titre de champion d'Afrique lui être retiré. Et la victoire est attribuée au Maroc sur tapis vert, 3-0. Les Lions de l'Atlas deviennent donc officiellement champions d'Afrique, une décision inédite qui provoque incompréhension et colère côté sénégalais, la fédération sénégalaise ayant annoncé un recours.
Merci Salma Dakhlaoui. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci à Raymond Jouan, la technique. Bonne suite de programmes sur Radio Orient.